mythique chrétienne. Comprenons que lorsqu'il s'agit de l'éthique qui regarde la finalité, qui fait découvrir ce pourquoi l'homme est fait, il y a un lien très direct entre la philosophie première, la métaphysique, et l'éthique, sont les deux extrêmes. L'éthique est une philosophie pratique. Elle nous éclaire sur ce que nous devons faire. Vous voyez, Kant, l'impératif catégorique, c'est de mettre l'éthique à la place de la métaphysique. Il n'y a pas de métaphysique pour Kant. Et on dirige en absolu ce qu'on doit faire. Or, au point de vue philosophique, la volonté de Dieu seule peut avoir ce caractère impératif. Avant l'éthique chrétienne, il y a l'éthique stoïcienne, qui est la plus proche de celle de Kant. L'éthique stoïcienne montre que nous sommes obligés, impératif catégorique, il faut accomplir la volonté de Dieu, et que cette volonté, nous ne savons jamais d'une manière absolue ce qu'elle est. Nous ne savons que dans la foi, mais pas au point de vue humain, parce que au point de vue humain, point de vue philosophique humaine, nous n'avons pas de contact direct avec la volonté de Dieu. Nous n'avons pas de contact direct avec la sagesse de Dieu. Ce que Dieu veut pour moi, nous ne savons pas. Nous pensons que c'est cela, nous désirons que c'est cela, mais nous ne savons pas de façon impérative. Nous ne savons que dans la foi. Et dans la foi seule, nous acceptons les instruments de Dieu. Mais au point de vue philosophique, je ne sais pas. Alors, c'est pour ça que l'éthique stoïcienne est une éthique qui veut tout faire pour accomplir la volonté de Dieu. L'impératif catégorique. C'est très beau, mais vous voyez, il y a l'imagination qui joue. La sincérité en éthique chrétienne égale la vérité. En philosophie réaliste, la sincérité n'égale jamais la vérité. Je suis sincère, je vais jusqu'au bout de ma sincérité. Mais je ne peux pas dire, parce que je suis sincère, je suis vrai. Non. En éthique humaine, philosophique, parce que je n'ai pas la révélation portant sur ce que je dois faire. La philosophie ne repose pas sur la révélation, elle repose sur mon expérience. mon âme. Et en créant mon âme, Dieu est Père. Et il a sur moi un regard de Père. Donc, il veut que je réalise telle ou telle chose. Je ne peux pas dire, Dieu veut que je fasse cela. En éthique chrétienne, en éthique humaine, avec la foi, je peux dire, je pense que Dieu veut que j'entre dans la communauté Saint-Jean. Je pense que Dieu réclame de moi un don total de toute ma vie. Je peux dire ça. Mais ça repose sur la foi. Et donc dans l'obscurité de la foi. Pour quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, ce sera une hypothèse. Ce sera une opinion. Et celui qui a la foi aura respect sur ce que je dis être la volonté de Dieu sur moi. Et s'il n'a pas ce respect, il n'est plus chrétien. Parce qu'il doit savoir que Dieu, par le mystère de l'incarnation, me parle. Par le mystère de la révélation, il me parle. Dieu a parlé à Abraham. Quitte ton pays. Et la volonté de Dieu s'est présentée négativement. Quitte ton pays. Va vers la terre que je t'indique. Avec le Christ, je peux dire que la parole de Dieu me poursuit. La vocation des apôtres, elle est nette. Quand on demande à Jésus, où demeures-tu ? Jésus répond, viens et vois. Et c'est une réponse qui peut être pour moi, puisqu'elle m'est donnée dans l'Écriture. Si elle n'était pas pour moi, elle serait barrée de l'Écriture. Tout ce qui est dans l'Écriture est pour moi. J'ai le droit de le regarder, et même j'ai le devoir de le regarder. Dieu m'a parlé par les prophètes. Dieu m'a parlé par son Fils bien-aimé. Alors, je dois demander conseil aux instruments de Dieu qui sont proches de moi pour être sûr que mon interprétation est exacte. Mais j'ai le devoir de demander à Dieu ce qu'il veut pour moi. Je le reçois dans la foi. Donc non pas dans l'évidence, non pas dans l'impératif catégorique de Kant, je reçois dans la foi. J'en ai certitude, mais c'est pas toujours très déterminé. J'ai la certitude de devoir me donner totalement à Dieu, au-delà des causes secondes, directement. C'est la grandeur de la vocation religieuse. La vocation religieuse est au-delà des causes secondes. C'est pour ça que la vocation religieuse fait que les parents n'ont pas autorité pour moi, pour me dire que tu n'as pas la vocation, tu dois demeurer auprès de moi. Quand on dit que suivre Jésus et accepter de le suivre dans la foi, même si nos parents pleurent, ce n'est pas aller contre les commandements de Dieu. Parce que Jésus est l'accomplissement de la loi. Puisque Jésus est l'accomplissement de la loi, il a, lui, pouvoir de dépasser ce qui est demandé par la loi. tous ses actes. Parce qu'il a l'âge de raison. Vous avez tous l'âge de raison. Moi, j'espère. Je ferai le catéchisme à des jeunes de 14 ans. Je leur dirai, vous avez tous l'âge de raison. Nous devons donc prendre conscience que vous êtes responsable de vos actes, puisque c'est ça, avoir l'âge de raison. Vous êtes responsable de vos actes. Et donc il y a une possibilité à votre égard de parler de morale humaine, indépendamment de la foi. C'est très important aujourd'hui de le montrer. Je ne suis pas libre d'une manière absolue. Je suis dépendant. l'homme a-t-il le droit de supprimer celui qu'il a voulu avoir, qu'il a accepté de l'avoir? A-t-il le droit de le supprimer? Question beaucoup plus délicate. Quelqu'un qui a été violé, donc qui n'a pas choisi, elle a cédé à la force, à la violence, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et cette femme a-t-elle le droit, puisque cet enfant, elle n'a pas voulu? Elle n'a rien fait pour ça. A-t-elle le droit de le supprimer? Je ne traite pas la question maintenant. Hein. Je pose la question. Et il y a des frontières qui sont très délicates à bien voir. Jusqu'où va le droit de l'homme? De mes actes. Sors, va-t'en. Et s'il ne fait pas, on va voir. Puis je commence à l'attaquer. Avec ma bouteille que j'ai en main. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Quand j'ai fait déjà l'expérience que quand je me mets à boire à un certain niveau, je perds mes moyens de domination et toutes mes vieilles rancœurs sortent. Je renvoie promener et s'il ne comprend pas, je le tabasse. De faire ça. Mais petit à petit, je comprends les limites de mon droit. Naturellement, indépendamment de ma découverte de l'existence de Dieu, l'homme a un certain horizon, qui est l'horizon de son autonomie. Et des limites de son autonomie. Je sais que si je me fatigue de trop, parce que j'essaie de moins dormir, ou bien tout simplement parce qu'il y a un travail important qui s'impose à moi et que je suis obligé de le faire, je serai particulièrement énervé, incapable de me contrôler. Soit petit à petit. citoyens, il y a des rapports d'amitié, de famille, où les temps ne pénètrent pas. Et ces rapports reposent sur une amitié. L'amitié est plus radicale que mes devoirs de citoyen. Heureusement pour l'amitié. Il y a quelque chose de plus radical. Les rapports de citoyen ne sont pas aussi profonds que ma capacité d'aimer un autre. Et cette capacité d'aimer un autre peut me finaliser. Parce que justement, c'est très profond. Mais c'est le premier moment de la morale, l'éclosion en moi d'une responsabilité à l'égard de mes actes. Des actes bons comme des actes mauvais, des actes qui diminuent la liberté des autres par ma colère. Je diminue leur responsabilité. Et je suis responsable de diminuer la responsabilité d'un autre. En raison de l'amour d'amitié que je peux avoir vis-à-vis d'eux. C'est très important de comprendre ça. Dans une société où l'aspect politique est constamment limité volontairement, où j'accepte des libertés qui ne sont pas de vraies libertés, gestes et des actes qui ne sont pas bien. Donc je ne peux plus m'appuyer sur l'aspect politique. Constamment. Alors, à ce moment-là, je m'appuie sur quoi? Sur ce qu'il y a de plus radical et plus fondamental devant ma responsabilité. C'est d'avoir confiance et aimer mon prochain, celui qui est proche de moi, celui qui est sur ma route. Il y a une morale typiquement humaine qui est celle. Je suis responsable des actes de mon prochain, à l'égard de mon prochain. Et cette morale repose sur la philanthropie. J'aime l'homme. Parce qu'il est mon égal, parce qu'il a une certaine possibilité de se redresser. Et cette philanthropie, j'en prends conscience dans l'amitié qui commence à naître à l'égard de tel homme. Et cette amitié augmente en moi le sens de ma responsabilité à humain est un acte immanent. Ce n'est pas dans l'origine d'un acte humain que je saisis ce qu'est cet acte humain. C'est dans son terme. Il est immanent. Un acte immanent, c'est un acte dont le point de départ et le terme se touchent. Et c'est dans le terme que je saisis pleinement son immanence, ce qu'il est. C'est pour ça que le philosophe ne va pas interroger le gosse de 7 ans pour savoir ce que c'est que l'acte humain. Il interroge l'homme capable de se dominer et capable d'aimer et capable de lier un lien d'amitié avec son prochain. Et je saisis à partir de là l'acte humain dans sa fleur, dans son achèvement, et je le saisis dans son origine. Je ne peux pas faire ça pour l'acte artistique, parce que l'art implique un devenir, il implique un travail.